RMC Intégral Tour, Jean-Christophe Drouet.
Nous sommes ensemble durant une heure. Bonsoir à tous. Pour évidemment débriefer ce 105e Tour de France, la première victoire de Geraint Thomas sur la grande boucle, la première victoire d'Alexander Kristoff sur les Champs-Élysées. Et puis évidemment, nous reviendrons sur le Tour de nos Français. À 20h30, nous débrieferons le Grand Prix de Hongrie avec la victoire de Lewis Hamilton. Nous serons avec la Dream Team Formule 1 et notamment Jean-Luc Roy. Et puis aux alentours de 20h40, 20h45, restez bien avec nous. Toutes les informations mercato du jour. Mais allez, parlons de la grande boucle tout de suite. On va refermer ce chapitre de 3 semaines. C'était intense, c'était magnifique. Pas toujours, évidemment, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'accueille Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Bonsoir, messieurs.
Salut Jean-Christophe, salut mon Thierry, salut mon Bourgui.
Salut.
Ah, décidément, on ne se quitte pas, Luc et Thierry. Nous allons ensemble refermer ce chapitre, ce 105e Tour de France. Évacuons, si vous le voulez bien, tout de suite l'étape du jour, une étape pour le prestige et donc la victoire, je le disais, du Norvégien Alexander Kristoff. Sa 3e sur le Tour, la première depuis 2014. Bon, au final, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Tout le monde est content dans l'ensemble, les sprinteurs ont eu leur victoire?
Ah oui. Tout le monde est content, non? Non, non, il y en a un qui est super heureux, c'est Kristoff. Les autres, ils sont déçus.
C'était l'étape à gagner pour les sprinteurs. C'est vraiment l'étape prestigieuse pour les sprinteurs sur ce Tour de France, hein. C'est clair. Et là, Kristoff, il a vraiment rempli son contrat. Et c'est vraiment l'étape qu'il fallait gagner sur le Tour de France, en fin de compte.
Arnaud Démare a été gêné il y a un moment.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Et donc, il a arrêté de pédaler, ne serait-ce qu'une seconde, puis derrière, voilà. C'est fini.
Ouais, exactement. Dommage pour lui. Il a déclaré qu'il avait loupé sa chance. Il a terminé troisième du podium. D'ailleurs, il a terminé troisième, pas troisième du podium, mais concernant Arnaud Démare, justement, est-ce que vous pensez qu'il a réussi son tour là? Alors troisième sur les Champs-Élysées, une victoire d'étape tout de même. Est-ce qu'on peut essayer d'analyser son Tour de France, Arnaud Démare?
Bien sûr qu'il a réussi son tour. Quand tu gagnes une étape sur le Tour de France, t'as sauvé même ta saison. Ne serait-ce que le tour, c'est clair, mais la saison, oui, l'impact du Tour de France est énorme. C'est bien pour ça que aujourd'hui très peu de coureurs, très peu d'équipes prennent de risques sur le général. C'est pour ça qu'on s'ennuie un tout petit peu, peut-être.
C'est vrai que il a rempli son contrat et la Française des Jeux, Groupama, la Française des Jeux. Groupama, la FDJ, on dit, je crois.
Oui,
voilà. Voilà. Et donc, j'ai fait plusieurs fois la pub pour la FDJ, Groupama FDJ. Bon. Il a fait un excellent tour par rapport aux années précédentes. Pourquoi? Parce que les années précédentes, il avait du mal à passer la montagne et c'était souvent, que l'on voyait Arnaud abandonner le tour. Et là, il a dû énormément travailler dans les bosses pour pouvoir vraiment passer les Alpes et les Pyrénées dans les meilleures conditions possibles, parce qu'il sait très bien qu'en passant les Alpes et les Pyrénées, il y avait certainement à avoir de moins en moins de sprinteurs au final. Et on l'a bien vu, hein, il avait une chance extraordinaire de pouvoir remporter une étape de Tour, parce que quand tu vois les Kittel, Greipel et compagnie quitter le Tour de France après les Alpes et d'autres dans les Pyrénées, ça donnait beaucoup plus de chance à Démare de remporter une étape.
Oui, et puis là, il y avait une occasion en or, donc si je vous comprends bien, de remporter une autre étape sur les Champs-Élysées, une étape de prestige. Il a d'ailleurs déclaré « J'ai la sensation d'avoir loupé ma chance. C'est frustrant parce que je me sentais fort, mais j'ai été gêné à 250 mètres de l'arrivée. Une vague normale du sprint, très classique, c'est comme ça. Mais c'est sûr que l'équipe a encore fait un super travail. Je suis partagé parce que je suis content d'avoir fini ce tour où j'ai beaucoup souffert avec une victoire, mais il y avait la deuxième qui était à portée de main aujourd'hui. D'ailleurs, on va écouter son manager Marc Madiot.
Il faut vraiment le bon timing pour que l'on puisse prétendre à la victoire, mais c'est la même chose pour tous les sprinteurs. Il faut vraiment le sprint parfait. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre chaque. On a nos responsabilités, on assume. Les autres équipes nous laissent peut-être un peu trop ce rôle, mais bon, ça fait partie du jeu. On est là pour essayer d'assumer et de maîtriser le mieux possible les sprints. Il nous manque un petit chouïa dans les 500-600 derniers mètres, mais il fallait peu de choses pour que ça le fasse, comme ça pouvait ne pas le faire.
Voilà, la 3e place d'Arnaud Démare et donc la victoire d'Alexander Kristoff. Dans quelques instants, nous allons parler de Geraint Thomas. Est-ce que on est en train d'ouvrir une nouvelle ère, sachant qu'il a 32 ans? Votre avis, messieurs, dans quelques instants. Mais il y a Marie-Thérèse qui nous appelle au 32-16. Bonsoir, Marie-Thérèse.
Oh, que c'est gentil de vous avoir. Oh là là, quel beau Tour de France. Merci, merci à nos trois Français. Hein, les trois étapes. Écoutez, moi je rêve.
Deux Français, Marie-Thérèse.
Marie-Thérèse, vous voyez, vous n'avez quasiment pas commencé, et déjà Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, vous coupent la chic.
Ah mais écoutez, hein, moi je rêve, ce Tour de France, écoutez, c'est magnifique. Il n'y a qu'en France qu'on a ça, hein. Et puis alors nos trois Français, alors, hein, le maillot à pois, enfin, vraiment, moi, c'est ma fête de l'été.
C'est vrai, vous vous êtes régalée ou pas, Marie-Thérèse?
Oui, mais vous savez que j'aurais bien aimé quand même passer le jour où vous étiez à Valence.
Ah oui, 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 parce que vous habitez dans la Drôme, c'est ça?
Eh oui, à Valence.
J'étais venu vous voir, hein, une année,
Marie-Thérèse. Mais bien sûr, il y a au moins 6 ans, hein.
Oui, facile.
Et j'avais même mis du champagne au frigidaire pour l'équipe RMC pour vous. Hein, parce que j'ai dit si, il m'appelle comme ça, mais bon, j'ai attendu quand même 2 semaines. Hein.
Ouais, mais vous avez le tour avec l'équipe, quand ils sont sur le tour, c'est très difficile.
Mais bien sûr.
Ils font beaucoup d'heures, et le soir ils sont fatigués, ils ont qu'une envie. Ils n'ont qu'une envie, Marie-Thérèse, c'est quand ils finissent l'émission le soir, c'est de vite prendre la route, d'aller à l'hôtel, de prendre leur douche et de se faire un bon petit graillou. De récupération, parce que c'est dur ce qu'ils font.
Mais je sais bien, mais vous auriez pu venir même à 11h du soir, hein.
Ouais, mais enfin bon.
Prendre une coupe de champagne.
Non, mais... Marie-Thérèse, je sais que vous avez la forme et on est ravis de vous avoir.
Ans.
Marie-Thérèse, oui, je peux donner votre âge, de toute façon, c'est fait par Luc Leblanc.
J'ai 85 ans passé.
85 ans. Vous vous intéressez au Tour de France depuis quel âge?
Écoutez, j'étais toute petite. Mon père me disait nos cousins Pélissier, parce que je suis une Pélissier. Hein?
D'accord.
Alors je dois avoir des gènes, parce que vous savez que les frères Pélissier, hein, ils ont fait le Tour de France, ils l'ont gagné en 1920 et quelques. Hein? Et c'était les forçats de la route. Voilà. Mmh.
Et ça a toujours la même magie pour vous aujourd'hui?
Pardon?
Ça a toujours la même magie aujourd'hui, le Tour de France en 2018, ouais?
Toujours, toujours. Et puis dites en 98, c'est RMC qui m'a appelé. On m'a dit que j'étais la pierre angulaire.
Bah, exactement.
Parce que je défendais Richard Virenque. Alors ils avaient mon numéro de téléphone. Et un soir, eh ben, RMC m'a appelé. Oh, j'ai dit, c'est un gag. Ils m'ont dit non, on va mettre une émission sportive et on aimerait bien vous avoir. C'est le championnat du monde de foot. Oh, j'ai dit le foot, vous savez. Moi, je connais pas les règles, mais appelez-moi pour le Tour de France. Alors là, je vous en dirai parce que moi, hein, mon amoureux de cœur, c'était Louison Bobet. Et Luc Leblanc, eh bien, il a vu, hein, la photo et l'enveloppe de Louison Bobet. J'ai fait 12 kilomètres pour aller voir Louison Bobet. Au col du Grand Bois où il arrivait à Saint-Étienne.
Alors, vous l'avez fait pour moi après?
Eh non. Eh non.
Ouais, mais c'est vrai que Louison Bobet, Luc Leblanc, c'est pas forcément la même chose, mais on l'aime. Notre Lucho, évidemment.
J'avais 17-18 ans, hein.
Exactement, mais vous êtes encore jeune, Marie-Thérèse. Merci beaucoup d'avoir.
Dans la tête, oui, je suis jeune.
Mais ça s'entend.
Moi, écoutez, 2 secondes, parce que je dis merci à tous les caméramens. Je dis merci à tous ceux qui ont contribué au Tour de France et qui nous font vivre un bel été.
Vous avez raison et on remercie toute l'équipe d'RMC, la Dream Team, qui a magnifiquement travaillé durant ces 3 semaines. C'était vraiment assez incroyable.
Et je remercie aussi les hélicoptères. Parce que les hélicoptères,
je suis bien d'accord.
Ils nous font voir de belles choses. Parce que le plateau d'Aiglières, eh ben, j'avais mon petit-fils qui est au Tour de France avec vous et qui est dans les animations. Et il m'a dit, je serai au plateau d'Aiglières et je serai aussi, hein, à la Rosière devant le grand t-shirt parce qu'il est dans le ski et il part la semaine prochaine pour s'entraîner en Argentine.
D'accord.
Avec l'équipe de ski. Vous voyez? On est dans les sports dans la famille.
Exactement, restez dans le sport hein. Et merci beaucoup Marie-Thérèse de nous avoir appelé. Vous avez raison.
Écoutez, hein. Je vous embrasse bien fort tous hein.
Nous aussi on vous embrasse. Et sachez qu'on remercie hein. jamais assez les hélicoptères, les camions et les motos.
Ah oui, et puis les pompiers et puis tout le monde.
Merci beaucoup Marie-Thérèse et à bientôt
sur RMC. Grand merci hein.
Je vous embrasse Marie-Thérèse
hein. Moi aussi. Je vous fais de gros bisous.
Gros bisous.
On s'appelle évidemment l'année prochaine Marie-Thérèse. Pour le 106e Tour de France.
Il paraît qu'il parte de Belgique, hein.
Ah, j'ai pas trop d'informations, on peut pas trop en dire. Mais oui, mais vous êtes bien informé, Marie-Thérèse, forcément. Sachez que s'il passe par Montélimar, on vient vous voir.
Hein. Ah bah tiens,
balance.
Ah puis je vous ferai un bon repas.
Avec grand plaisir, merci beaucoup Marie-Thérèse.
Allez, gros bisous.
Gros bisous Marie-Thérèse, au revoir.
Alors Christophe, t'as oublié de remercier les vélos.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de remercier les vélos. Mais oui, mais les vélos dans le Tour de France, est-ce que ça compte véritablement? On peut évidemment se poser la question.
Avant de parler de
Garen Thomas, c'était voilà une petite carte postale avec Marie-Thérèse, ça faisait plaisir de la voir. Il y a Kevin qui nous appelle pour débriefer ce Tour de France. Bonsoir Kevin.
Bonsoir, c'est les gars.
Salut Kevin.
Ouais. Salut Kevin.
Alors qu'as-tu envie de retenir là de ce tour? Dans quelques instants, on va parler de Garen Thomas. Toi, tu as envie de retenir quelle image? Qu'est-ce qui a pu te faire vibrer? Qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé?
Alors aimé, on va dire la dernière étape de montagne, parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment un super spectacle sur cette dernière étape. Ma petite déception, c'est on va dire sur le fait que les coureurs, on va dire les outsiders, n'ont pas voulu exploiter en fait les possibilités qui ont été mises à disposition par les organisateurs sur la première partie du tour pour aller essayer de gratter quelques secondes, quelques peut-être dizaines de secondes. Je pense à l'étape dans le Finistère qui arrivait à Quimper. Il y avait quand même des belles petites rampes de lancement pour, alors certes pas pour gagner 2-3 minutes, mais pour peut-être montrer aussi que la Sky pouvait être mise en difficulté sur d'autres terrains que la montagne. Et quelque part que les coureurs, les outsiders, peut-être pour assurer un podium ou je ne sais quoi, n'est pas l'audace de sortir un petit peu des sentiers battus où ils le font que une fois qu'ils sont derrière. Et finalement, peut-être qu'il faudrait prendre l'initiative de devancer un petit peu finalement ces étapes de montagne. C'est ce que les organisateurs essayent de faire, mais malheureusement, c'est les coureurs qui font la course. Et je pense que sur l'étape des pavés, sur il y avait matière. Il y avait matière à gratter quelques secondes ou peut-être même juste à faire douter la Sky.
Mais pourquoi?
Mais justement, est-ce qu'il y avait vraiment matière, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon? Parce qu'on dit souvent, on aurait aimé voir autre chose, une plus grande bataille, c'est vrai. Mais est-ce que les autres coureurs en étaient vraiment capables?
Et voilà, c'est simplement ça. S'ils se sont pas découverts, s'ils n'ont pas attaqué la Sky plus que ça, c'est qu'à quelque part, ils n'étaient pas capables. Ou alors, ils ne se sentaient pas capables à ce moment-là. Quand Kevin, tu dis que ils n'ont pas profité des pavés, je trouve que sur les pavés, il y a eu une belle course. Il y a eu des rebondissements, il y a eu des chutes, et tout ça a fait qu'une belle course.
Ouais, mais est-ce qu'un Tom Dumoulin, par exemple, avec ses qualités de rouleur, aurait pas eu les moyens à un moment donné de pousser un petit peu, d'aller chercher un Christopher Froome qui est peut-être au niveau de son gabarit moins à l'aise sur ce type d'étape? On l'a pas vu essayer Tom Dumoulin sur cette étape-là.
Est-il bien à droite sur les pavés?
Ouais, mais attends, Thierry. Moi, je pense que Tom Dumoulin et son équipe, au niveau de Roglic et son équipe, ils auraient peut-être pu tenter le coup sur l'étape des pavés, parce qu'il y avait quand même 22 km de pavés, 15 secteurs. Il y avait de quoi faire sur cette étape-là pour mettre en danger l'équipe Sky, parce que là, le rouleau compresseur Sky n'aurait peut-être pas roulé sur les pavés sur cette étape-là comme ils ont roulé dans les Alpes et les Pyrénées. À un moment donné, une étape comme l'étape de Roubaix, pour moi, c'était peut-être la plus dangereuse de ce Tour de France. Et là, au départ de ce tour, peut-être que l'équipe de Dumoulin et Roglic n'ont peut-être pas saisi l'opportunité pour mettre en difficulté l'équipe Sky. Il faut pas attendre les Pyrénées, les Alpes, c'est pas non plus le tour, il se joue pas non plus que là, il se joue aussi avant hein, dans les bordures, dans les
parce que tu crois qu'ils étaient sur la route nue, les adversaires de la Sky? Non, je pense pas. Je te dis que
ils auraient pu tenter le coup. Ils ont peut-être pas fait ce qu'ils auraient dû faire sur l'étape de Roubaix. Ça c'est clair.
La Sky n'est jamais aussi forte que quand elle est devant. Donc à un moment donné, si on le laisse l'opportunité d'aborder les massifs alpins et pyrénéens en tête, après sur la défensive, ils sont imbattables. C'est fini, c'est plié.
Donc à un moment donné, Kevin, ouais. Je te coupe, excuse-moi, mais il n'avait pas le maillot au pied des Alpes. Je
non,
te rappelle,
bon,
mais c'est eux qui sont passés en attaque. Ils ont roulé comme s'ils avaient le maillot sur les épaules.
Ouais,
et ils
sûr.
Sont allés le chercher avec Geraint Thomas.
Après, c'était
et
vraiment
de façon,
qu'il avait Geraint Thomas, c'était comme s'il avait le maillot dans les faits. Ça changeait pas grand chose. Mais je pense voilà, le seul moyen à mon avis de contrecarrer la Sky, c'est ce que les organisateurs essaient de faire. Enfin, c'est vraiment un petit peu cette frustration de dire on a des organisateurs qui mettent justement d'autres terrains, d'autres outils. Ça pourrait être passionnant. Je pense d'avoir et d'ailleurs il y en a un qui l'avait fait, c'est 2014 si j'ai pas de bêtises avec Nibali. Nibali il construit sa victoire dans le Tour au départ sur l'étape des pavés avec Perrault et Bardet aussi qui avaient fait une belle étape. Et voilà, je pense que c'est dommage. Moi je maintiens que
Nibali
les deux étapes de
Tour
de Bretagne et de Quimper, il y avait moyen sur des profils de puncheurs que Froome et Thomas avaient peut-être moins d'aller essayer.
Ouais, c'est vrai, mais peut-être que Kevin, certains leaders n'ont pas envie de dévoiler leurs cartes à ce moment-là. On sait que le Tour de France c'est long. On va en reparler d'ailleurs dans quelques instants et puis on se projettera aussi sur l'année prochaine, 20h18. Je vous propose d'écouter Alexander Christophe, celui qui a remporté cette étape prestigieuse sur les Champs-Élysées, sa première dans sa carrière.
Yeah, that's a dream coming true.
C'est un rêve qui devient réalité.
I dreamt about this victory for many years.
Et ça fait longtemps, des années que je pense à ce succès.
To beat the faster guys like
j'avais jamais réussi à être parmi les plus rapides. Et aujourd'hui, grâce au fait que j'ai survécu aux montagnes, j'arrive à l'emporter ici.
Et voilà pour la victoire d'Alexander Christophe. Nous on se retrouve dans quelques secondes pour vous parler de la belle victoire de Geraint Thomas. À tout de suite dans l'Intégral Tour sur RMC.
RMC Intégral Tour, Jean-Christophe Drouet.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. À 21h, vous retrouverez l'équipe de l'After autour de François Pinet. Toujours avec Luc Leblanc, avec Thierry Bourguignon pour débriefer ce 105e Tour de France. La parole maintenant à Geraint Thomas. Est-ce qu'il va remporter d'autres Tours de France? En tout cas, on va lui laisser un petit peu savourer celui-ci, son premier dans sa carrière. Geraint Thomas.
C'est incroyable. C'était pas forcément une étape très difficile, mais aujourd'hui c'est allé très vite dans le final et j'ai passé la fin d'étape avec de la chair de poule. J'ai toujours du mal à réaliser que j'ai gagné le Tour de France. C'est encore un rêve à mes yeux, ce n'est pas la réalité. J'ai regardé tous les appareils photos, toutes les caméras qui étaient autour de moi, j'ai profité à fond de chaque instant sur cette dernière étape.
Il a 32 ans, Geraint Thomas, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon. Est-ce que nous sommes partis vers une ère de 2-3 ans, Geraint Thomas, ou c'est trop difficile de l'annoncer?
Moi, pas forcément. Hein. Pas forcément. Bon, il a 32 ans, hein, donc voilà. Et plus les années passent, même s'il a du carburant,
et où il sera l'année prochaine.
S'il est costaud, voilà. Après, voilà, c'est ça. S'il y a un changement d'équipe, encore une fois, est-ce qu'il aura la même équipe que l'équipe Sky? Mais bon. Ceci dit, à 33 ans, tu peux gagner encore un tour, hein, mais c'est pas évident après, hein, c'est pas évident. Hein.
Bah Froome, par exemple, à 33 ans, il a terminé sur le podium cette fois-ci.
Oui, mais il n'a pas gagné.
Exactement, il n'a pas gagné. Vous pensez que à 32 ans, 33 ans pour Christopher Froome, on est amené à assister à une relève dès l'année prochaine, pourquoi pas?
À une relève, faut pas l'enterrer trop rapidement, celui-là non plus. Hein. Christopher Froome, on l'avait enterré la dernière étape des Pyrénées, rappelez-vous, où il a montré vraiment des faiblesses, et on s'est dit que dans le chrono, il allait ne pas pouvoir reprendre son bien, c'est-à-dire une place sur le podium. Et de belle manière, il a repris son bien parce que il s'est surpassé dans le chrono. Après moi je dis Geraint Thomas, on ne sait pas son avenir proche, c'est ça le problème. Parce que comme disait Luc, sera-t-il encore à la Sky? S'il reste à la Sky, dans quel rôle sera réservé à Geraint Thomas par rapport à Froome? parce que Froome, il a quand même 4 Tours de France à son actif, donc il veut égaler les 5 Tours de France. Je pense que c'est un objectif de la Sky aussi. Alors l'année prochaine, on verra bien. Mais
vous lui conseillez, vous, à Garen Thomas, de rester à la Sky ou pas?
J'aurais tendance à dire oui.
Non. Ouais,
Non, mais attends,
Thierry, t'as raison, mais si...
Tous ceux qui sont partis, ils se sont plantés.
S'il reste, c'est pour être l'équipier de Froome l'année prochaine, parce que Froome, il va pas le faire deux fois, hein.
Peut-être
que Froome, il va pas faire le Giro l'année prochaine, il va peut-être changer son programme et revenir sur le programme,
précédentes. Romain Bardet le disait, on s'habitue à le voir sur le podium, à le voir gagner, mais une année passée, ça peut changer. Il peut arriver avec moins en forme que ce qu'il a été, parce que cette année il a gagné le Giro, ok, mais il a été inexistant tout le Giro sauf deux étapes.
Ouais.
Bon, sur ce tour, il a eu un peu de malchance, il faut dire. Il a perdu plus de 50 secondes la première étape sur Gamel. Mais ça peut se reproduire aussi les autres années. On peut rien dire. Ils ont la capacité de gagner le tour, ça c'est clair.
Au final, d'avoir emmené Froome, ça a fait énormément débat. Il a été attaqué, poussé, critiqué, sifflé, tout ce que vous voulez en haie. Au final,
le moral, hein, quand même.
Ben oui, au final, de l'avoir emmené, il y avait Garen Thomas à côté. Est-ce que ça a été judicieux de la Sky?
Moi, je dis que non, parce que ça a fait plus de mal à, quand même, à la Sky et à Froome, surtout, parce qu'il faut, même si c'est un homme de caractère, un coureur de caractère, ça, il le disait, même Geraint Thomas le disait, on aurait aimé que les gens nous aiment, mais on a été sifflé tout le temps, et ça fait mal, à quelque part.
Oui, forcément. Et Lucho, un dernier mot peut-être sur Garen Thomas. Après, on parlera du Tour l'année prochaine, les évolutions que vous avez envie de voir. Garen Thomas, un beau champion.
Oui. Oui, un beau champion, et puis en plus un coureur qui a quand même une certaine classe, quoi. Sur le vélo, puis dans son expression, même si je pige rien à l'anglais.
Non, mais il a une gueule, ce mec.
Ouais, il a une gueule de champion. Il a une gueule de champion. Dommage pour lui qu'il se révèle à 32 ans, quoi. Voilà. Peut-être que.
Bon, il a une magnifique carrière sur oui. piste, hein. Mais
oui,
c'est
non,
vrai
non,
que
mais sur piste,
le tour,
sur
c'est
piste,
un peu tard.
Voilà, sur piste. Si tu veux, il a peut-être pas cru en lui avant et.
Il a pas fait le sacrifice qu'il fallait aussi.
Voilà.
Tu sais, il était un
peu gros,
il aimait la fête.
Voilà.
La bonne bouffe.
Il y a des coureurs qui se révèlent après, qui ont un déclic et qui ne faisaient pas forcément le métier comme ils auraient dû le faire pour vraiment exploser. Et peut-être qu'aujourd'hui, il va se dire, mince, si j'avais su, j'aurais fait le métier un peu mieux avant et j'aurais peut-être pas remporté que mon premier Tour de France en 2018, quoi. Donc c'est vrai que l'opportunité, il faut la saisir de suite, hein. Sportif de niveau, cycliste professionnel, on l'a qu'une fois dans sa vie.
Ouais.
Et celui qui n'arrive pas à saisir cette chance-là extraordinaire et de faire des sacrifices, parce que c'est vrai que le métier de coureur cycliste, ce sport, c'est un sport qui demande beaucoup de sacrifices. Tu n'as pas le droit de faire la fête, tu n'as pas le droit d'aller boire un coup avec les copains ou de faire des choses que les autres font peut-être dans d'autres sports. Le coureur cycliste qui fait ça, qui fait des sorties, eh bien, il le paye cash dans les jours qui suivent et il a du mal à s'en remettre pendant 15 jours, 3 semaines. Donc le sport cycliste, ça dure 12 ans, ça dure 15 ans, mais c'est 12 ans, 15 ans, c'est une vie de moine. Il faut savoir respecter son corps, son organisme et vraiment faire le métier vraiment à 100%. Voilà, après, c'est dommage d'avoir des regrets, quoi.
Kevin est toujours avec nous au 32-16. Kevin, et d'ailleurs je vous poserai la question à Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, qu'as-tu envie de voir l'année prochaine? C'est quoi tes souhaits?
Plus d'oreillettes. Non, mais ouais. Vraiment, je sais que les coureurs sont plutôt opposés à ça, mais c'est vrai que il y a vraiment cette sensation d'avoir des directeurs sportifs qui jouent quasiment à Cycling Manager de par la voiture. Alors ça n'enlève rien au mérite des coureurs, parce qu'à un moment donné, il faut toujours appuyer sur les pédales. Mais je reste persuadé que avoir juste des oreillettes à la limite qui diffusent les infos de Radio Tour avec les informations de sécurité, et qu'on empêche d'avoir ces consignes qui viennent directement des directeurs sportifs et en amont des propriétaires d'équipe, ça débriderait la course et on aurait peut-être plus que ce qui est ce qu'on aime dans le cyclisme, c'est-à-dire bah aussi des défaillances, aussi des moments où des coureurs font des erreurs, parce que c'est ça qui fait la beauté du sport, c'est pas forcément des coureurs qui vont plus vite que tout le monde. C'est aussi le revers de la médaille, avec des coureurs qui tentent des choses, qui prennent des risques et puis qui se ramassent, et on a l'impression quelque part que on n'a plus de grosses défaillances comme on pouvait avoir, des coureurs qui allaient au-delà de leurs limites, parce que on a l'impression qu'on les atteint plus en fait, ces limites là que les coureurs sont un petit peu le doigt sur la couture du pantalon et on va au maximum mais sans le dépasser.
C'est ce que tu veux nous dire, Kevin?
Non mais là, Kevin, je peux pas te laisser dire des choses comme ça.
C'est que.
Mais non, vous n'êtes jamais d'accord jusqu'à la dernière minute de cette émission.
Mais les coureurs sont de plus en plus préparés. C'est pour ça qu'il y a moins de défaillances. Ils sont de plus en plus préparés. C'est pas en enlevant les oreillettes qu'on va changer quoi que ce soit.
Non, mais je te parle pas des oreillettes.
Les informations viendront du directeur sportif par la voiture.
Non, c'est les capteurs. Moi, on te parle des capteurs de puissance. C'est pas les oreillettes qui te font monter le cardio. C'est les capteurs de puissance, si tu veux, ils savent qu'à un moment donné, s'ils dépassent un certain seuil, ils vont exploser. La machine humaine, Thierry, écoute, la connaissance de soi-même sur le vélo et de savoir à quel moment on peut aller loin dans l'effort, moi je comprends pas que... C'est sûr qu'il faut vivre avec son temps, ok, d'accord, mais vivre avec son temps, ça a ses limites aussi, et je pense qu'à un moment donné,
qu'on remette, de voir des mecs qui dépassent, du coup.
Ouais, mais non, mais de voir des mecs qui dépassent leurs limites et qui vont au-dessus des limites.
Très bien, messieurs, en plus, on a déjà parlé des capteurs de puissance. Je sais que Luc Leblanc, ça te tient à cœur, et je comprends pourquoi. Mais là, j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous un tracé, quelque chose que vous avez envie de voir? Est-ce que vous voulez voir un contre-la-montre sur les Champs-Élysées? Est-ce que vous voulez avoir une étape de 30 km? Est-ce qu'il y a quelque chose d'insolite comme ça que l'on peut, mais évidemment, même si tout est plus ou moins calé, mais que l'on peut proposer au directeur du Tour de France, quelque chose que vous voulez voir pour l'année prochaine?
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cette année, c'est c'est vrai que la petite étape des Pyrénées, l'étape courte des Pyrénées, j'aurais aimé la voir peut-être dans la deuxième semaine dans les Alpes.
Ok, un peu plus tôt.
Un peu plus tôt,
pour
oui.
Pour qu'on puisse se découvrir un petit peu.
Voilà, un tout petit peu plus tôt.
Le départ en ligne aussi ou pas?
Pardon?
Le départ en ligne, on le garde ou pas?
Oui. Ouais, mais bon, ça c'est pas de la Formule 1, c'est clair que ça fait le buzz, mais qu'est-ce que ça a apporté de plus? On a vu tout de suite, même s'ils partent au pied d'un col, ils vont pas se lancer comme des malades sans savoir où ils vont. Ils sont réfléchis quand même. Moi je veux bien qu'on enlève tous les capteurs, les oreillettes, comme vous voulez, qu'on fasse ce qu'on veut, mais tant qu'on a des grosses équipes qui survole toutes les autres.
D'accord.
Attendez, donc, on a enlevé un coureur, on a dit c'est peut-être la solution. Et il y a même deux coureurs qui se sont fait, du moins un coureur en moins par rapport à l'année dernière, un autre Moscone qui s'est fait éliminer, ça n'a rien changé.
Très bien, donc en tout cas toi, Thierry Bourguignon, tu aimerais revoir une étape très courte, et Luc Leblanc, on retire les capteurs de puissance, et puis peut-être...
Moi je suis peut-être d'accord pour les capteurs.
Et puis on met la Sky avec que trois coureurs, puis comme ça tout le monde est content.
Mais non, et puis, les autres...
Même avec trois coureurs.
Les 10 coureurs par équipe et 3 pour la Sky.
Très bien, merci
là,
beaucoup.
Je pense qu'ils pourraient perdre.
Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, ça a été un plaisir de passer ce tour en votre compagnie. Merci beaucoup.
Allez, merci. Moi aussi, ça a été un plaisir.
Ouais. Salut. Ça a été vraiment un plaisir, Bourgui. Puis comme tous les ans, c'est vrai que ça passe vite le Tour de France, mais
exact,
on s'est bien éclaté. Et puis on a dit ce qu'on voulait dire.
Exactement.
Et il n'y a pas de langue de bois à RMC.
Et vivement les Français qui gagnent le Tour.
Il faut bien que les auditeurs comprennent qu'il n'y a pas de briefing avant le Tour et on dit vraiment ce que l'on pense. Voilà.
Et puis
que ça plaise ou pas.
On se retrouve très vite, évidemment. Pour la Dream Team Vélo, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, merci beaucoup. Et merci à
vous.
L'ensemble de la Dream Team Vélo.
Et j'embrasse toute l'équipe technique à Paris, de l'équipe RMC, tout ça, tous ceux qui sont derrière les ordis, les trucs, voilà.
Et puis au revoir à Benji qui a fait son dernier tour.
Tout le monde,
et
voilà.
Oui, Benji Ramagé qui a fait son dernier tour. 8 Tours de France avec RMC. On vous embrasse très fort. Nous, on se retrouve dans quelques instants, évidemment, pour évoquer d'autres actualités. Le Grand Prix de Hongrie et le Mercato, c'est du foot, évidemment. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour, Jean-Christophe Drouet.
20h33, nous sommes ensemble jusqu'à 21h dans un petit quart d'heure. Nous allons parler du mercato, mais tout de suite, direction la Formule 1.
RMC, les experts F1.
Et pour débriefer ce Grand Prix de Hongrie, on retrouve notre expert de la Dream Team Formule 1, Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Bonsoir JC, bonsoir à tous.
Alors Lewis Hamilton a remporté le 67e Grand Prix de sa carrière, sa 6e victoire en Hongrie. Est-ce une victoire logique pour toi ?
Écoute, oui, dans la mesure où on dit toujours que le fait de décrocher la pole position en Formule 1, et particulièrement sur un circuit tourmenté et où il est très difficile de dépasser comme celui de la Hongrie, c'est carrément plus de 60% du boulot. Ben, il l'a confirmé, il a pris un très bon départ, et d'autant qu'il avait derrière lui son équipier Valtteri Bottas, qui a fait son boulot proprement, et qui a fait plus que le protéger, on va certainement y venir dans un instant. Donc oui, c'est une victoire logique, même si sur le sec, les Mercedes ne s'étaient pas montrées performantes le vendredi, mais le fait de décrocher cette pole sur le mouillé le samedi, et surtout d'assurer la domination en début de course, bah, c'était déjà là une très très belle option sur la victoire. Après, il fallait ne pas commettre d'erreur, il fallait piloter comme sait le faire Hamilton, en ménageant les pneumatiques, etc. Donc oui, c'est logique.
Tu parlais de Valtteri Bottas, son coéquipier chez Mercedes. Est-ce que tu considères que c'est grâce à lui que Lewis Hamilton a réussi à s'imposer ?
Alors, peut-être pas grâce à lui, parce que ça voudrait dire, si j'interprète un tout petit peu de manière volontaire ta question, que sans Bottas, Hamilton ne gagnait pas. Je pense qu'il aurait pu le faire sans cette protection qui a été féroce, farouche, on peut dire, de Bottas, mais c'est clair que ça l'a beaucoup aidé, puisque au moment de l'arrêt de Sébastien Vettel, donc son rival principal avec la Ferrari, eh bien, malheureusement, on se rate un petit peu chez Ferrari, déjà, et nous l'avons signalé en direct, on aurait dû l'arrêter au moins un, sinon deux tours plus tôt, parce qu'il perdait un petit peu de temps sur le leader, d'une part. D'autre part, il y a eu un petit incident avec le pistolet pneumatique sur la roue avant gauche, et ça a suffi à faire repartir Vettel derrière Bottas, et là pour le coup la course était jouée, oui.
Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces derniers tours là, avec l'accrochage entre Vettel, Bottas, au moins le circuit s'est un petit peu animé à ce moment-là, parce que sinon il n'y avait pas grand-chose à signaler non plus.
Et c'est clair que là, ça nous a fourni de la matière, c'est peu de le dire, effectivement. Bon, on voyait bien que Vettel était plus rapide que Bottas, dans la mesure où effectivement, il avait conservé des pneus qui étaient plus frais. C'est clair, il s'est arrêté au 39e tour, là où Bottas s'était arrêté au 15e tour. Donc, de surcroît, il avait des pneumatiques plus performants, donc c'était logique que Vettel revienne sur Bottas. Maintenant, on se demandait combien de temps Vettel allait pouvoir mettre pour faire sauter le bouchon Bottas. C'est comment le problème, tu sais, de la Formule 1, c'est toujours le même. C'est que quand les pilotes se rapprochent à moins d'une seconde de celui qui les précède, il y a cette fameuse boule de feu qui, d'une part, produit une élévation des températures de pneumatiques, de freins, évidemment de toute la motorisation, et puis c'est difficile au plan aérodynamique. Et on l'a bien vu avec Vettel, qui lors de sa première tentative n'a pas pu rester dans le sillage de Bottas. Il a dû laisser refroidir tout ça pendant quelques tours, se laisser décrocher en quelque sorte. Et puis on l'a vu d'ailleurs, parce que Raikkonen, avec la même Ferrari, est remonté sur le duo Bottas et Vettel. Ça voulait donc dire que le rythme de Bottas et de Vettel était nettement inférieur à celui que pouvait tenir la Ferrari.
Mais cette bataille Ferrari-Mercedes, quand elle n'est pas entre les deux principaux adversaires, je parle d'Hamilton et de Vettel, ça te gêne ou pas que Bottas comme ça empêche évidemment pour lui, parce qu'il veut garder sa position, mais aussi pour son leader de laisser passer les Ferrari? Est-ce que ça c'est gênant pour la Formule 1 ou pas du tout?
Non, écoute, sincèrement pas du tout. D'abord parce que ça a toujours existé, donc là il faut pas être angélique si tu veux ça s'avouer ou pas, mais en tout cas ça s'est toujours fait. Quand on a deux voitures comme celle-là, on a bien compris qu'il y avait un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, et là je crois que c'est très clair chez Mercedes, comme c'est très clair chez Ferrari. Alors c'est moins clair par exemple chez Red Bull, et d'où l'accrochage qu'il y avait eu, tu t'en souviens, entre les deux pilotes Red Bull. Ouais. Mais bon, on peut dire que là c'est très clair, et il est normal que Bottas se mette quelque part au service de son leader Hamilton, et surtout dans la mesure où son contrat a été reconduit, on le sait, il vient d'être reconduit pour un an, c'est normal, il est aux ordres de l'équipe et il est aux ordres de son leader, donc il fait le boulot, et puis il le fait pas, c'est pas un mauvais garçon, j'allais dire. dire Bottas, il a passé de... Alors il s'est loupé deux fois, hein, on va y venir, effectivement. Il se loupe au freinage, il est déventé, il a plus de pneus, il vient tamponner Vettel, mais bon, on voit bien que c'est ni intentionnel ni méchant. Je serais un peu plus critique sur Ricardo, qui l'a dépassé à l'extérieur, qui lui a laissé de la place. Là, Bottas, il s'est bien raté, d'autant qu'il savait qu'il avait plus d'adhérence. À mon avis, peut-être subira-t-il les sanctions de la direction de course. En tout cas, son cas a été observé par la direction de course.
Alors, avec cette victoire d'Hamilton, eh bien, le Britannique creuse un petit écart sur Vettel. 213 points pour Hamilton, 189 pour Vettel. En gros, un grand prix d'écart. À ce moment-là de la saison, c'est significatif ou c'est anecdotique pour toi?
Non, c'est significatif. Le dernier Grand Prix, on y revient brièvement, tu le sais, avec cette erreur de Vettel qui était au commandement et qui, sur le mouillé, se fait piéger. Ça peut arriver à tout le monde, encore une fois, mais psychologiquement, c'était dur. Devant son public, en Allemagne, pour ce qui est peut-être le dernier Grand Prix d'Allemagne, à Hockenheim, ça a frappé fort. Donc là, je pense qu'il y a forcément des séquelles psychologiques, quoi qu'en dise Vettel. Et puis là, il se fait dominer par Hamilton, aussi sur le mouillé, parce que Vettel ne peut pas faire mieux que quatrième en qualif, sur le mouillé, une nouvelle fois. Oui, là, il a frappé très fort, Hamilton. Il y a le break. Il va falloir digérer ça en 4 semaines. Alors évidemment, ce sera une autre histoire sur le circuit de Spa-Francorchamps à la fin du mois d'août. Mais non, je pense que Hamilton, et comme tu le dis, il a à peu près un Grand Prix d'avance, et ça, c'est important.
Jean-Luc Roy est avec nous pour nous revenir sur ce Grand Prix de Hongrie, de la Dream Team Formule 1. Jean-Luc, parlons un petit peu de nos Français. Pierre Gasly qui signe une magnifique 6e place. Il aurait pu faire mieux ou là vraiment c'était déjà inespéré cette 6e place?
Bah écoute, je vais pas renier ce que j'ai dit ce matin et même dans Motors peu de temps avant le Grand Prix. On pensait pas tous hein, qu'il soit capable de tenir ce rythme-là, parce que sa modeste Toro Rosso à moteur Honda est loin de délivrer les performances normalement suffisantes pour lui permettre de résister aux garçons qu'il avait derrière lui, hein, notamment Verstappen. Bon, Verstappen s'est arrêté suite à un problème mécanique, mais il y avait aussi Magnussen et Grosjean, les deux hommes de chez Haas, Ferrari. Donc on pensait qu'il aurait du mal. Bah non, dès le début, on a compris que Pierre était capable de maintenir le rythme des meilleurs. Alors bien sûr, il a perdu un petit peu de terrain dans le courant du Grand Prix, mais c'est génial, quoi. Le seul, finalement, auquel il n'a pas pu résister, c'est Daniel Ricciardo, mais c'était normal, avec la machine dont il disposait. Et puis on n'oublie pas que Ricciardo, c'est l'équipe Red Bull, qui est l'équipe leader de Gasly, hein, qui est chez Toro Rosso. Donc c'était logique, là aussi, il n'a pas résisté du tout. À l'inverse de Bottas, on peut dire que... D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui a résisté à Ricciardo, hein. Il a fait une remontée météorique de la 12e à la 4e place. C'était logique, et Gasly a fait un Grand Prix extraordinaire.
On a beaucoup parlé de Pierre Gasly avant ce Grand Prix, avec cette perte de poids. Il s'était plaint de la lourdeur, si je peux dire ainsi, de sa voiture. Donc lui devait perdre 2 à 3 kilos. Cette 6e place, ça veut dire qu'il les a perdus?
Ah, je peux te dire que pendant le Grand Prix, là je suis prêt à signer, il les a perdus. Hein, parce que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, alors la F1 c'est un vrai sport, très difficile, même si les athlètes ne bougent pas beaucoup, mais tu sais, c'est un autre genre d'effort. Et effectivement, sur un Grand Prix comme celui-là, avec le cagnard, la température incroyable qui régnait dans la cuvette sur le tournicier hongrois, moi je suis certain qu'il les a perdus en eau et en sel, hein, les 3 kilos, hein, y a pas de problème.
Alors si on fait un bilan des Français à mi-parcours, il y a un beau tiers groupé, hein, 12e Ocon avec 29 points, 13e Gasly avec 26 points, 14e Grosjean avec 21 points, et puis on peut aussi mettre le Monégasque, Charles Leclerc 15e avec 13 points. Tu es déçu ou tu trouves que c'est une belle première partie de saison de nos Français?
Écoute, on peut pas tous les mettre dans le même sac, hein, pour les raisons que tu connais. Là, je suis déçu pour Charles, par exemple, parce qu'effectivement, sur les derniers Grands Prix, sur les 3 derniers Grands Prix, à son corps descendant, hein, c'est pas de sa faute, il avait pas le matériel pour faire ce qu'il fallait lors des Grands Prix précédents, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Là, en Hongrie, à l'inverse, il pouvait faire un truc, parce que on l'a bien vu avec Pierre Gasly, il ne l'a pas fait. Bon, des mauvaises qualifs et puis le reste suit. Et en plus, il a un problème technique qui s'arrête tout de suite. Bon, ça va pas pour autant altérer l'excellent première moitié de saison de Charles. Bon, ça fait un, c'est le Monégasque. Après, si on remonte, bah effectivement, pour ce qui concerne Romain, on a bien compris qu'il fallait qu'il obtienne des résultats avant la trêve. Alors c'est ce qu'il s'est attelé à faire. Il l'a plutôt pas mal fait là, dans la mesure où effectivement, il prend des points. points sur 3 grands prix sur les 4 derniers. Avant, c'était catastrophique, hein, puisqu'il n'avait pas ouvert son compteur. Donc, on va dire que son cas doit être à l'étude chez Haas, puisque clairement, je pense qu'une décision pour son avenir peut-être est en train d'être prise par les dirigeants de Haas. Donc là, il a plutôt opté dans la bonne case. Maintenant, il y a du monde qui demande derrière, hein, mais il est plutôt pas mal. Alors après, Esteban Ocon, Esteban, c'est plutôt bien aussi parce que il a sauvé les meubles avec une machine qui n'était pas à la hauteur. À un moment, le problème, il est tout près de son équipier Pérez. Hein. Le problème, c'est l'équipe qui est en grave danger, comme tu le sais, qui est sous administration judiciaire depuis vendredi. Quel sera l'avenir vraiment de l'équipe qui va se décider dans quelques jours? Et quel sera l'avenir d'Esteban au milieu de tout ça? Esteban, on sait qu'il est un petit peu sur les listes de Renault, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle pour lui. Mais pour qu'il aille chez Renault, il faut que Carlos Sainz s'en aille. Or, Carlos Sainz, eh ben, il a fait un plutôt beau Grand Prix dans les points. Lui aussi, il est 9e. Donc, le cas de Carlos est à l'étude. Est-ce que Carlos reviendrait dans le giron Red Bull duquel il provient? On n'y croit pas trop. Est-ce qu'il irait chez McLaren aux côtés d'Alonso ou à la place d'Alonso si Alonso décide d'arrêter? Tu vois que c'est le jeu des chaises musicales qui est toujours un petit peu compliqué. Et puis je termine par celui dont nous avons parlé, Pierre Gasly. Écoute, Pierre, il fait un début de saison superbe, une première moitié de saison, il y a absolument rien à dire. Tu l'as dit, il a totalisé 26 points avec la machine dont il dispose. Non, c'est plutôt positif. Voilà, on
mais
va pas grimper
lui,
au rideau.
Mais ouais, c'est lui qui fait la meilleure saison pour l'instant, la première partie de saison, Gasly. Si on doit en sortir
avec les résultats, oui, d'aujourd'hui, oui, là c'est clair. Puis pour les mêmes raisons que les autres, finir de manière aussi pertinente et aussi probante sur un tracé comme celui-là avant le break, non, c'est génial. C'est clair que là, oui, il a frappé fort. Je t'aurais dit Charles, puisqu'encore encore une fois on l'assimile. J'aurais dit que c'était Charles. Je mets peut-être à cause de ce Grand Prix là ou grâce à ce Grand Prix, je mets Pierre Gasly un tout petit peu devant, puisque Pierre termine fort et Charles, malheureusement pour lui, termine un peu moins fort.
Alors les pilotes vont partir en vacances, hein, un break de 3 semaines. Tu la jugerais comment, cette première partie de saison de Formule 1? Est-ce qu'on assiste à une belle saison?
Dans la mesure où il y a une bagarre entre deux pilotes d'écuries différentes, je réponds oui, parce que bon, c'est l'affrontement qu'on a connu l'an dernier entre Hamilton pour Mercedes et Vettel pour Ferrari. Écoute, et puis tu le sais, il y a quand même un plus à chaque fois que l'équipe Ferrari est dans le coup, hein, c'est l'écurie mythique de la Formule 1. Bon, on a deux quadruples champions du monde quand même, c'est-à-dire que celui des deux qui va l'emporter, il rejoindra au palmarès de l'histoire de la Formule 1 Juan Manuel Fangio avec 5 titres de champion du monde. Donc on vit forcément un événement exceptionnel. Maintenant, là où on est le plus content, c'est quand les deux peuvent s'affronter clairement sur la piste ensemble. Alors, on en était un petit peu privé pour toutes les raisons qu'on a évoquées là en début de cette intervention. On aurait aimé, on adore quand on a Hamilton face à Vettel et que les deux s'arsouillent. Ça, c'est vraiment le plus beau moment. Mais je dois avouer que là, Hamilton est en train de prendre la main. Il va falloir que Vettel réagisse très vite, très fort. Et pour ça, il y aura le Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique sur un circuit magnifique. Et puis surtout, évidemment, le Grand Prix de Monza. Tu sais que Monza, c'est juste derrière, c'est au début du mois de septembre. Et là, traditionnellement, les Ferrari sont très performantes à Monza. Voilà, les deux Grands Prix de rentrée vont être vraiment les clés de la deuxième partie de la saison.
Et je parlais de vacances, Jean-Luc. Les pilotes, ils vont vraiment partir en vacances ou ils vont commencer à avancer leur pion pour le mercato rapidement?
Écoute, il n'y en a que 6 qui ont signé. 6 qui sont vraiment certains de ce qu'ils feront en 2019. C'est très peu, hein, tu te rends compte? Sur 20, ça veut dire qu'il y en a 14 qui ne savent pas. Certains, ça dépend d'eux. Ricardo, par exemple, il y en a plusieurs qui ont des contrats en attente de signature. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas du tout ce qui va leur arriver. Et pour certains, ils sont même carrément en danger. Hein. Et il y en a, on va dire, je vais citer, malheureusement, il y a un Français, c'est Grosjean. Il y a aussi Ocon, du coup, avec les incertitudes qui planent sur l'équipe. Il y a Hartley, il y a Ericsson, il y a Stroll, il y a Van Dorn, il y a Sirotkin. Et puis, il y a des gens, tu sais, qui sont sur le pas de la porte. Kubica, Giovinazzi, Lando Norris, Latifi, Mazepin, il y en a plein.
Donc, ça sent pas la plage, quoi.
Pardon ?
Ça sent pas la plage, quoi.
Pas trop. Je pense qu'il y en a qui vont rester très 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 proches de leur téléphone et je pense qu'il y en a qui vont avoir pas mal de rendez-vous là pendant cette période, même si officiellement on les contraint à être en vacances, tout comme les ingénieurs d'ailleurs.
Bah, merci beaucoup Jean-Luc Roy et à très vite.
À bientôt JC.
Et nous on se retrouve dans quelques instants, dans une poignée de secondes. Restez bien avec nous, on va vous donner toutes les infos mercato du jour. 20h47, vous écoutez RMC et vous avez raison, à tout de suite.
RMC Intégral Tour. Jean-Christophe Drouet.
Nous sommes ensemble encore durant quelques minutes. Le temps de faire le point sur le mercato à 21h. Vous retrouverez François Pinet pour l'after. Mélanie Ferreira m'a rejoint de la rédaction RMC Sport. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir JC.
Alors avec toi, nous allons parler de football, de mercato avec toutes les informations du jour. On va commencer par Marseille. Deux pistes pour un grand attaquant, Olivier Giroud ou Mario Balotelli.
Oui, on vous l'annonçait hier sur RMC Sport, les dirigeants de l'OM ont repris discrètement des discussions avec l'entourage d'Olivier Giroud. Son profil fait l'unanimité au sein du club. Jacques-Henri Hérault, le président, l'avait déjà courtisé l'été dernier. Et puis, autre profil d'attaquant qui intéresse l'OM, même s'il est différent, c'est celui de Mario Balotelli, l'international italien de l'OGC Nice, qui veut bien lâcher son joueur pour 10 millions d'euros, accessible pour l'OM, mais le dossier traîne en longueur. Donc voilà, qui sera le grand attaquant de l'OM à la rentrée, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore et on n'a pas fini d'en parler. Tu as bien raison. Tiwe Bakayoko, un ancien de la Ligue 1 qui souhaite rester à Chelsea.
Son entourage l'a confirmé à RMC Sport. Le milieu de terrain français veut rester chez les Blues avec qui il a joué 43 matchs, dont 34 comme titulaire. Il est bien décidé à s'imposer dans l'entrejeu du club londonien où il est arrivé en juillet dernier de Monaco avec un contrat de 5 ans. Et pourtant, le milieu de terrain français de 23 ans est courtisé par le FC Séville, l'Inter et le Milan AC, mais Chelsea est dur en affaires. Les Blues ont par exemple demandé au FC Séville un prêt payant et la prise en charge de l'intégralité du salaire du joueur. Une option un peu compliquée pour le club andalou, mais même si le jeune français souhaite rester à Londres, la porte n'est pas fermée pour un éventuel départ en cas d'offre intéressante à la fois pour son club et pour le joueur.
Alors évidemment, vous pouvez nous appeler au 3216 pour réagir à toutes ces rumeurs. Il y a justement Nicolas, supporter de l'OM, qui veut parler du grand attaquant. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Alors Olivier Giroud, Mario Balotelli, on en parle depuis 24 heures. Nous avons eu cette information hier soir. Tu en penses quoi?
Ben moi, je pense que il y a pas photo en fait. J'entends les débats qu'il y a hier entre Giroud et Balotelli, il y a aucun souci. Mais je veux dire, quand on voit Giroud à la Coupe du Monde, ce qu'il a fait, même s'il n'a pas marqué des buts, de niveau combativité, caractère, état d'esprit, il colle à l'Olympique de Marseille. Beaucoup plus que Balotelli, qui a une mentalité assez personnelle, on va dire, pour dire que ça. Mais c'est et puis même au niveau du salaire, je pense qu'on n'en a pas trop parlé. Giroud, je pense qu'il a un gros salaire à Chelsea, mais ce sera peut-être pas autant que Balotelli s'il signe à l'OM avec ses 700 000 euros par mois, si je me trompe pas. Donc Pour moi, il n'y a pas photo dans tout, dans la qualité du joueur, dans la mentalité, dans ce qu'il peut donner avec les autres. Avec Payet, par exemple. Payet, Touré autour de lui, je pense que ça peut vraiment cartonner, faire très très mal. Voilà, il s'entend bien aussi avec Adil Rami. Enfin voilà, il pourrait s'intégrer sans problème, quoi. Ce serait vraiment pour moi parfait, quoi.
Le fait qu'il ait refusé, il y a un an, pile, Olivier Giroud, de venir à Marseille, alors il y avait l'optique de cette Coupe du Monde, est-ce que tu lui en tiens rigueur ou absolument pas? Tu as compris ce choix de carrière, et pourquoi pas venir à l'OM maintenant?
Non, je pense pas qu'il faut lui en vouloir. Enfin, c'est moi, c'est vrai que d'habitude, je suis pas pour les gens qui refusent de venir à l'OM, c'est vrai que c'est un peu... Mais bon, c'est le football. Il avait préféré à l'époque rester à Arsenal, c'était son choix, mais maintenant voilà, si l'occasion se représente une deuxième fois, il faut qu'il vienne, parce que s'il vient, il sait que ça va être le grand attaquant entre guillemets, et puis il va, comme je l'ai dit, il va être très très bien entouré, hein. Payet, Thauvin, Giroud, rien que ça, pour moi ça peut faire très très mal, quoi. Donc non, il n'y a pas de souci, on l'accueille avec plaisir.
Ah, le débat fait rage hein, parmi les supporters olympiens, Olivier Giroud ou Mario Balotelli. Toi, en tout cas, Nicolas, tu nous as donné ton avis. Tu penches plutôt sur et pour le champion du monde, Olivier Giroud. Merci beaucoup, passe une bonne soirée, Nicolas.
Merci, vous aussi.
Merci. Steven Nzonzi, qui est très proche de l'AS Roma.
Un accord aurait même été trouvé entre le champion du monde français et le club italien. C'est le Corriere dello Sport qui parle d'un contrat de 4 ans, 2,5 millions d'euros par saison. Monchi, le directeur sportif de la Roma, qui a connu Nzonzi à Séville, doit maintenant négocier le transfert avec le FC Séville, puisque Nzonzi est sous contrat encore jusqu'en 2020, et puis faire face aussi à la concurrence, puisque le Barça serait sur le coup également pour trouver peut-être une alternative à Adrien Rabiot.
Justement, Adrien Rabiot, sommet de faire un choix du côté du Paris Saint-Germain.
Thomas Tuchel, le nouveau coach parisien, a demandé à son joueur aujourd'hui devant la presse de prendre une décision et de la dévoiler. Le technicien allemand a fait du milieu de terrain français son capitaine là pendant la période estivale en l'absence de Thiago Silva. Mais le joueur parisien a fait passer un message ces dernières semaines. Il ne serait pas contre quitter son club formateur cet été. On sait qu'il est l'une des priorités du FC Barcelone. Il ne lui reste qu'un an de contrat avec le PSG qui lui souhaite le prolonger.
Yonis nous appelle au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Yonis.
Bonsoir à tous.
Adrien Rabiot, tu as envie de le voir rester, prolongé au Paris Saint-Germain. Il devrait rendre, en tout cas, il doit rendre sa décision. C'est ce que nous apprend Mélanie Ferreira. Thomas Tuchel lui a dit de la prendre et de la dire.
Bah moi en fait je pense que pour le club ça serait bien parce que c'est un joueur issu de la formation. Après moi je pense pas qu'il veuille réellement partir, c'est plus pour peser dans la balance du salaire et tout, qui fait jouer un peu le FC Barcelone dans la négociation. Mais après s'il veut vraiment partir, moi je pense comme l'année dernière, comme avait dit Daniel Riolo à ce moment-là quand Verratti voulait partir, bah qu'il parte et pas que lui, enfin tous les joueurs qui veulent partir, bah qu'ils partent quoi. Mais je sais pas, Rabiot, c'est très bizarre. Depuis que j'ai l'impression que depuis sa non sélection en équipe de France, il y a un effet boule de neige avec lui. Il a l'air très frustré. Je sais pas, c'est très bizarre. Après moi je pense que ouais, vraiment pour le PSG, ce serait bien de le garder parce que ça enverrait un message fort à ces jeunes. Mais s'il veut pas rester, bah qu'il parte quoi. Mais en plus Thomas Tuchel lui a quand même confirmé sa confiance de vouloir le garder, de vouloir en faire un élément majeur du Paris Saint-Germain. Mais je sais pas, Rabiot, après faut vraiment qu'il montre son attachement au club. Et je sais pas s'il veut à peu près il voulait 600 000 euros par mois. Après, je pense que le PSG aussi a un peu des torts parce que quand il prolonge juste avant Marco Verratti à 12 millions, que lui il chipote un peu. Enfin, c'est.
Ouais, et puis forcément, Adrien Rabiot a envie d'avoir, s'il reste au Paris Saint-Germain, un meilleur contrat. Pour l'instant, il a un contrat qui est évidemment satisfaisant, mais par rapport aux autres salaires du Paris Saint-Germain,
lui qui
a un autre statut aussi au PSG, ce n'est plus le tout jeune.
C'est quand même devenu
un des cadres, ou en tout cas un des titulaires de cette équipe.
C'est vrai, c'est exactement ça, parce que quand il a prolongé, il avait un contrat de jeune qui vient de s'imposer à peu près.
Bien sûr.
Et maintenant, c'est plus un jeune, il mérite le salaire qu'il demande. Mais bon, s'il veut pas rester, bah qu'il parte et qu'il le dise vite, quoi. Parce que le PSG, ils sont déjà un peu en galère de milieu de terrain.
Ah oui, ça c'est sûr.
Thiago Motta qui est parti. Mais bon, après, il y a des solutions. Je pense Draxler, lui, il a envie de jouer. Il a envie de prouver parce que l'année dernière, il a pas suffisamment joué. Je pense qu'il est un peu revanchard, ça peut être pas mal. Moi, je pensais pour solution de recrutement, Kovacic.
Ouais.
Kovacic, parce qu'il a dit qu'il voulait quitter le Real Madrid parce qu'il jouait pas, il joue un match sur quatre, voire des fois il joue, enfin, c'est très très rare qu'il joue. Et Kovacic, c'est vraiment très 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 prometteur. Et
bon Yonis, tu sais quoi, on va te mettre en relation avec Entero Henrique et comme ça tu vas pouvoir lui dire tout ça,
lui filer quelques tuyaux.
Merci d'avoir composé le 32-16 et de nous avoir donné ton avis sur Adrien Rabiot. Peut-être va-t-il donner dans une vidéo, peut-être comme Antoine Griezmann, la décision d'Adrien Rabiot. Benjamin Pavard qui reste à Stuttgart.
Pas d'offre pour Pavard, selon le directeur sportif du club, Michael Reschke, qui a aussi déclaré au journal allemand Bild. Nous sommes convaincus que Benji jouera encore une saison avec nous, le jeune champion du monde français, sous contrat avec le VfB Stuttgart jusqu'en 2019. Et il devrait rejoindre le Bayern l'été prochain.
Anis Souquet prié de faire ses bagages.
Arnaud Souquet ne rentrerait plus dans les plans des dirigeants niçois et le joueur de 26 ans aurait été invité à partir. Le Français n'était pas dans le groupe de Patrick Vieira hier lors du match amical perdu contre le Torino 1-0 et ne s'entraînerait déjà plus avec l'équipe professionnelle. Arnaud Souquet souffre notamment de la concurrence directe de Patrick Burnet et de Youssef Attal. Aucune offre concrète n'aurait été transmise à Nice pour le moment.
Et puis une dernière information, Axel, Alex Witzel qui est attendu rendu au Borussia Dortmund.
L'international belge devrait s'engager avec le club allemand dans les prochaines heures, selon la RTBF. Le demi-finaliste du mondial aux 96 sélections avec la Belgique devrait passer sa visite médicale demain. On parle d'un transfert estimé à 20 millions d'euros en provenance du Tianjin Kangjian en Chine.
Et je crois que j'ai dit Alex, c'est évidemment Axel Witsel. Merci beaucoup Mélanie Ferreira pour toutes ces informations. On te retrouve dans l'After un petit peu plus tard sur RMC. Justement, l'équipe de l'After est en place autour de François Pinet. Bonsoir François, c'est quoi le programme ?
Pisser et l'After, tu le sais, hein, comme moi bien sûr, c'est entre 21h et 23h cet été, 2 heures de foot, comme tous les soirs à la radio sur RMC, à la télé sur BFM Sport, le programme, le PSG et la gestion des gardiens, Buffon, Trapp, Areola, vous gardez qui, vous faites jouer qui? Voilà une question qu'on vous posera. Laurent Blanc va-t-il devoir s'exiler au Mexique pour entraîner à nouveau? Pourquoi personne n'en veut? C'est une autre question de l'After, appelez-nous au 3216. On attend aussi vos réactions sur l'hashtag RMC Live sur Twitter et sur Direct Studio sur l'appli RMC. On sera avec Samy Traoré et Jonathan McCarty. L'After, c'est dans quelques toutes petites minutes seulement. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.